Chapitre 3.
Depuis 14 ans, Irwin Glasner essayait de remplacer l'alcool par la religion. Mais, à la différence du président qui, de source officielle, ne buvait plus une goutte, il remettait Dieu en question tous les soirs à 6 heures et s'enivrait avec méthode 3 fois par semaine. Aussi, malgré son rôle actif de conseiller scientifique durant la campagne, l'avait-on soigneusement écarté du premier cercle de la Maison-Blanche. Il n'était pas revenu à Washington depuis la passation de pouvoir et avait reçu avec étonnement la convocation à un petit déjeuner de travail qualifié d'informel. Il s'était attendu à un tête-à-tête de réconciliation avec son ancien copain de beuverie, mais on venait de lui ouvrir la porte du bureau ovale et une douzaine de personnes assises entouraient la cafetière en argent près de la cheminée. « Entrez, Irwin !» Le ton était sec, le silence pesant, et il ne restait plus qu'une chaise. Irwin Glasner s'avança en saluant le président. Personne ne s'était levé. Il ne connaissait que la moitié des visages, son collègue universitaire, le biologiste Andrew McNeil, 3 des faucons figurant la garde rapprochée du président, un conseiller religieux et un ancien de la maison, le scénariste Buddy Kupperman. Irwin Glasner, spécialiste du clonage, présenta George W. Bush d'une voix pressée. « Donc, enchaîna-t-il en se tournant vers le pasteur Hunley.
« Donc, la position du Saint-Siège n'a pas changé, monsieur le président. Officiellement, le linge est qualifié d'icône et non de relique. Mais pourtant, la science l'a authentifié, non ?»«
La science, oui, » confirma le pasteur Hunley avec une feinte désolation. Télévangéliste vedette, Jonathan Hunley ajoutait à ses talents oratoires un physique de tennisman, une pensée simpliste accessible à tous, l'amitié de la famille régnante et une fortune estimée à 80 millions de dollars. Il dirigeait l'église du Grand Retour, courant néo-messianique préparant les zappeurs à l'imminence du jugement dernier.
Au symposium de Rome en 1993, appuya le professeur McNeil, la communauté scientifique internationale s'est prononcée en faveur de l'authenticité. Mais tout au long de l'histoire, le Vatican a constamment pris ses distances avec le Saint-Suaire.
Le linceul, rectifia George Bush avec agacement. Le suaire, c'est juste le linge qu'on met sur la figure, non ?
Le conseiller religieux acquiesça. Irwin Glasner regardait tour à tour les 2 posters fixés sur un paravent, montrant le drap de lin où s'imprimait grandeur nature l'image du supplicié recto verso. À gauche, la photo renforcée, à droite, le négatif. Il se demandait ce qu'il faisait là. À sa connaissance, les États-Unis avaient prouvé dans les années 80 que le linceul de Turin était une peinture du Moyen-Âge. Mais il avait suivi d'assez loin la contestation. Tombé fou amoureux d'une Française directrice de recherche à l'INRA, il avait passé 8 ans avec elle en banlieue parisienne à cloner des vaches. Pour lui, la manipulation du vivant était tellement plus passionnante que les études archéologiques sur un vieux linge sacré. L'idée lui vint que W, pour afficher la mission divine avec laquelle il confondait son mandat présidentiel, caressait le projet d'ajouter l'image sainte aux étoiles sur le drapeau américain, et il retint un sourire.
« Que dois-je savoir sur le linceul ?»
La question du président paraissait limpide, mais ses proches savaient la décrypter. Ils demandaient qu'on lui donne la synthèse de ce qu'il était capable de comprendre, sans que ses explications ne fassent pour autant barrage à son instinct, la seule facette de son intelligence qui lui inspirait confiance. Le professeur Andrew McNeil, directeur du département de biologie à l'université de Princeton, sauta sur ses petites jambes et s'approcha des 2 posters, avec l'empressement convaincu d'un intermédiaire qui souhaite réussir une vente. C'était l'une des personnes au monde qui avait passé le plus de temps sur le linceul. Chef de l'expertise scientifique du STURP, le Shroud of Turin Research Project, il s'était rendu à Turin en 1978 avec une équipe de 40 chercheurs et 72 caisses de matériel.
« Nous sommes en présence d'un tissu de lin jauni, monsieur le président, de 4,36 m de long sur 1,10 m de large, représentant l'image d'un homme flagellé et crucifié conformément au récit des évangiles. Âgé d'une 30aine d'années, il était de type yéménite archaïque, mesurait 1,80 m et pesait entre 150 et 160 livres. À droite, sur le négatif de la photo prise en 1898 par Secondo Pia, vous voyez très nettement les traces de flagellation et les différentes plaies en tout point conforme aux descriptions du Nouveau Testament, d'où le surnom de cinquième évangile donné au linceul. Mais il serait plus juste de parler de premier évangile, car c'est le seul qui soit, si je puis dire, contemporain des faits.
Le biologiste déplaça son doigt, suivant les contours de la silhouette aux mains croisées.
L'image du corps imprimée dans les fibres est une sorte de roussissure, monochrome et superficielle. En fait, il s'agit d'une déshydratation de la cellulose, d'origine inconnue, que nous avons pu définir comme le résultat d'une oxydation acide soudaine engendrant des chromophores alpha-dicarbonyles.
Concrètement, dit le président,
la couleur jaune. Comme si un dégagement brutal et très bref de chaleur et de lumière, émanant du corps après sa disparition, puisque l'impression s'est faite à plat, avait brûlé la surface du tissu. Nous avons essayé en vain de reconstituer ce phénomène en laboratoire. L'image n'est pas reproductible. On peut donc la tenir pour infalsifiable. J'ajoute qu'elle n'a pas vieilli, comme l'aurait fait une peinture, et que les trois incendies qu'a subi le drap ne l'ont pas altéré. Ni le temps, ni les agressions extérieures n'ont de prise sur elle. En résumé, je dirais que nous avons sous les yeux l'élément fondateur de la religion chrétienne, sa pièce à conviction essentielle et sa preuve scientifique.
« Heureux celui qui croit sans avoir vu », laissa tomber le pasteur Hunley, qui prêchait en direct à la télé 2h30 chaque dimanche. Le président regardait alternativement les deux hommes, rapides et saccadés, dans un mouvement d'oiseau. Il dit « Je ne vois pas en quoi la preuve scientifique de la résurrection du Christ peut diminuer le bonheur des croyants. »
« Il faut parfois semer le doute pour récolter la foi », rappela le télévangéliste qui, en bon professionnel, savait ménager le suspense sur son plateau de culte entre les flashs publicitaires.
« L'Église se doit de rester prudente face aux miracles. »
« Pas trop non plus, » objecta le président. « Je sais bien que l'Apocalypse prédit la disparition de la foi en prélude au retour du Messie, mais de là à dissuader les croyants et se féliciter de la diminution des effectifs, il y a une marge dans laquelle il ne faut pas tomber. Ce n'est pas comme ça qu'on gouverne. »
Il rendit d'un coup de menton la parole au professeur McNeil, qui se déplaça vers le second poster et fit observer que, sur l'image positive telle qu'elle apparaissait lors des ostensions, on pouvait constater que les traces de sang étaient rouges vifs, d'une fraîcheur étonnante, alors qu'au fil des siècles, la dégradation de l'hémoglobine aurait dû les rendre brunes.
« On est sûr que ce n'est pas de la peinture ?» demanda Irwin Glasner, qui, comprenant de moins en moins l'utilité de sa présence, avait à cœur de la justifier.
« Absolument. Nous avons effectué tous les tests possibles. Microscope, rayons X, ultraviolet, infrarouge, fluorescence, réflectométrie, VP8 de la NASA. Il n'y a pas le moindre pigment coloré dans les fibres. Et les différentes analyses confirment qu'il s'agit d'un sang de groupe AB. »
Le biologiste se retourna vers un homme froid vêtu de gris, assis au bord d'une bergère, qui, la voix précise et lente, creusant le silence à chaque virgule, compléta ses conclusions. L'angle des coulées de sang traduisait le mouvement du corps lors de la respiration. Les blessures post-mortem se distinguaient des autres lésions et, contrairement à l'iconographie religieuse, les plaies révélaient que les clous ne transperçaient pas les paumes mais les poignets, sans quoi les mains se seraient déchirées sous le poids du corps. Quant au coup de lance, la pointe avait glissé sur la sixième côte avant de perforer le péricarde, empli de sérosité, et l'oreillette droite gonflée de sang.
D'où la phrase de l'évangile de Jean, souligna McNeil. Il sortit du sang et de l'eau.
Et ce sang, puisque sang il y a, pourquoi on ne l'aurait pas ajouté au pinceau?
Tout le monde se tourna vers Buddy Copperman dans un mélange de défiance et d'attention. Gros rouquin hirsute aux allures débraillées, c'était le seul ancien collaborateur de Clinton qui avait été maintenu dans ses fonctions.
Impossible, lui répondit le biologiste. Il n'y a aucun tracé directionnel. L'empreinte sanguine est un décalque. On ne peut l'obtenir qu'en enveloppant dans un linge un cadavre de crucifié. Lequel cadavre s'est en outre détaché du drap sans le moindre arrachement du sang coagulé ni des fibrilles du lin. Il s'agit bien d'une IRSC, une impression retrait sans contact, rigoureusement inexplicable sur un plan scientifique. Preuve, sinon de la résurrection de Jésus, du moins de sa dématérialisation.
Il n'empêche qu'en 1988, objecta Buddy Kupperman, trois laboratoires, dont celui de l'Université d'Arizona, ont pratiqué la datation carbonique et ont situé le tissage du lin entre 1260 et 1390.
Il y eut des raclements de gorge, un grincement de chaise et le son discret d'une tasse regagnant sa soucoupe. Sur le genou droit du président, le stylo bouché tapotait nerveusement le bloc vierge. Ancien auteur à succès venu d'Hollywood dans les bagages de Ronald Reagan, le conseiller aux affaires étrangères Buddy Kupperman avait survécu à quatre administrations successives. On lui devait plusieurs montages aussi controversés qu'efficaces, comme les ventes d'armes clandestines à l'Iran servant à libérer les otages américains tout en finançant la rébellion des Contras du Nicaragua, le réchauffement des relations avec la Corée du Sud via le soutien à la secte Moon, et la scénarisation de quelques méchants de service, dont Muammar Kadhafi et Saddam Hussein. Si le premier personnage n'avait pas tenu la distance, Kupperman était assez fier du deuxième, qui avait rendu bien des services. En cas de problèmes intérieurs, lorsque l'urgence d'une diversion s'imposait, il avait fait du tyran moustachu le héros récurrent de plusieurs épisodes à suspense, certains réalisés par Bush père et Clinton, avec des résultats partagé. Mais il était difficile de reprocher une idée à Kupperman, son boulot consistant à élaborer des situations, des intrigues et des rebondissements, il suggérait avec une imagination inépuisable tout et son contraire. À chaque fois, c'est le président qui choisissait et qui en payait ensuite les conséquences, généralement en sacrifiant sur l'autel de l'opinion publique un conseiller moins productif que Buddy Kupperman, dont seul le talent justifiait l'influence et la longévité.